Il y a certainement des débats plus importants que ça. Par ailleurs, hier, je lisais un texte qui portait justement sur la Société des alcools du Québec. C'est un texte écrit par Alain Dubuc sur le recours collectif que certains veulent intenter. En tout cas, il y a un dépôt d'une requête, en tout cas en recours collectif, en Cour supérieure contre la SAC, qui est accusée de gonfler injustement et indûment ses prix et d'avoir des marges de profit trop importantes. Hier, Alain Dubuc disait, en conclusion de son texte, qu'il dépenserait pas trop d'énergie, finalement, sur cette question-là, parce que c'est pas la question... Il y a des questions plus importantes que ça dans la vie. Un peu, je partage cette opinion, parce que, je veux dire, le vin n'est pas un produit essentiel. C'est pas non plus un droit que d'avoir du vin pas cher dans la vie. C'est pas comme Hydro-Québec et son bloc patrimonial, quoi qu'on pourrait en discuter, là. Mais donc au Québec, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'alternatives que de chauffer, tu sais, quand on pense à l'hiver. Le vin, pas si sûr. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à consommer du vin. En fait, le vin représente la majeure partie des ventes de la SAQ. Est-ce que ces marges de profit sont justifiables? Est-ce que la fin est sonnée ou est-ce qu'on sonnera le glas pour le monopole de l'État en matière de vente de l'alcool? Beaucoup le souhaitent. On en discute avec Youri Chassin. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Chassin, bonjour.
Bonjour.
C'est toutes des bonnes questions, mais c'est pas une simple question parce qu'il n'y a pas juste des désavantages à avoir un monopole en matière d'alcool à tout le moins. Mais la principale question, c'est est-ce que le monopole fait trop d'argent sur notre dos?
Ben, c'est sans doute la principale question, mais ce n'est pas la seule. Et effectivement, vous parliez d'Alain Dubuc qui avait écrit hier sur cette question-là que ça allait être un débat de société très difficile à faire, qu'il y avait peut-être d'autres questions plus importantes. Il faut au moins voir quelle serait la meilleure décision, notamment pour les consommateurs, aussi pour les clients, hein, la SAQ.
Oui.
Et clairement, ce qu'on observe, c'est que dans la situation actuelle, il y a un monopole. Et non seulement il y a un monopole, mais ça donne des effets, soit que les vins sont plus chers, soit que, par contre, par exemple, il y a une variété moins grande de produits offerts par rapport, par exemple, à l'Alberta, qui est quand même une province plus petite, où depuis la libéralisation du commerce de l'alcool, depuis qu'ils ont privatisé, il y a 18 000 produits offerts, alors qu'au Québec, on en a 11 000. Il y a clairement là, des désavantages pour les clients et évidemment pour les consommateurs qui se disent, eux, bon, clairement, j'en ai pas pour mon argent parce que les marges bénéficiaires sont élevées. Alors, c'est sûr que la demande de recours collectif qui a été déposée soulève un débat. Je pense que c'est un débat intéressant à faire, ne serait-ce que pour réaliser que ça nous coûte quelque chose d'avoir un monopole d'État sur la vente d'alcool.
Bon. Avant de faire l'avocat du diable là, et de souligner qu'il y a quand même des avantages aussi à avoir un monopole, étudions cette question-là, la question principale. Est-ce que oui ou non, je sais que les Québécois vont dire oui parce qu'on est taxé, là, mais est-ce que oui ou non les marges de profit, et là c'est important de faire la distinction parce que privatisation ou pas, il y a rien qui empêche le gouvernement de taxer le vin, là. OK, alors là, ça c'est un autre débat. Mais est-ce que les marges de profit sont indûment élevées?
C'est une bonne question et en fait, la réponse est très difficile à trouver pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas de point de comparaison. Il n'y a pas un autre vendeur que la SAQ où les marges seraient différentes puis on verrait si elles sont moins élevées ou plus élevées. En l'absence d'un point de comparaison, il faut vraiment aller creuser dans les chiffres de la SAQ, d'essayer de voir à quel prix on achète telle bouteille de vin, à quel prix on le revend, avec les frais d'exploitation. Bref, c'est pas simple et c'est peut-être justement un des principaux désavantages, hein, c'est qu'on fait un débat sans avoir, dans le fond, les données parce qu'on fait face à un monopole. On n'a pas toutes les données. Finalement, c'est un problème aussi.
Bon, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les données, mais en même temps, je me demande, c'est quoi une marge de profit trop élevée? C'est-à-dire, dans le domaine privé, il n'y a pas une entreprise qu'on pointerait du doigt en disant, bon, ben écoutez, ils nous chargent trop cher ou ils font trop de profit. Bon, on essaie de faire la même chose avec le pétrole, mais en dehors de ça, là, je veux dire, il n'y a personne qui dit GM nous charge trop de profit ou a une trop grande marge de profit sur ses véhicules. Il n'y a personne qui chiale sur, je sais pas moi, les vêtements, là, les créateurs de vêtements qui nous vendent des vêtements à des marges extrêmement gonflées. Personne ne fait la fil pour faire un recours collectif contre les jeans Lois.
Vous avez tout à fait raison. Puis évidemment, Entre autres parce que ces commerçants-là, s'ils nous chargeaient des marges bénéficiaires très élevées puis qu'ils faisaient beaucoup de profits, il y aurait des concurrents qui diraient, ben, tiens, je vais récupérer une part de marché en proposant un produit similaire à moins cher. Et évidemment, dans le cas de la SAQ, ça ne joue pas. Il n'y a pas de concurrence. Par ailleurs, dans le cas de monopole, on pense par exemple à Hydro-Québec. Hein? Hydro-Québec a un monopole sur la vente d'électricité au Québec. Ben, il y a la Régie de l'énergie qui va regarder les hausses de tarifs qui sont proposées, alors que la Régie des alcools, elle, ne regarde pas les tarifs proposés par la SAQ. Et on a quand même un indice du fait qu'on a effectivement des vins relativement chers. Quand on essaie de se comparer, par exemple, je me rappelle que quand la SAQ a acheté un distributeur aux États-Unis et qu'ils se sont mis à vendre du vin, en gros, aux États-Unis, ben on remarquait qu'ils vendaient aux États-Unis moins cher qu'au Québec, alors que la SAQ est québécoise puis dessert principalement des clients québécois. Et évidemment, la réponse de la SAQ, tout à fait logique, c'est qu'aux États-Unis, le marché est compétitif, ils n'ont pas le choix de s'aligner sur les prix des concurrents là-bas. Alors qu'au Québec, ce n'est pas le cas. La situation de monopole leur permet d'avoir des prix plus élevés. Les gens n'ont pas le choix.
OK, mais ça, c'est pas une situation de dumping, ça? C'est pas interdit par l'Organisation mondiale du commerce?
Pas s'ils vendent en dessous. En fait, s'ils vendent en dessous du coût, effectivement, c'est une situation de dumping. Mais s'ils vendent au-dessus du coût, qu'ils font des profits, mais que c'est aligné sur la concurrence puis les prix du marché, non.
Bon, OK. Au-delà de ça, le fait est que les profits qui sont engrangés par la SAQ, ça devient un poumon financier pour l'État. Est-ce qu'on ne peut pas argumenter qu'un des principaux avantages d'avoir un monopole, et ce, malgré le fait qu'on paie le vin beaucoup plus cher, que ça contribue à pouvoir offrir une panoplie de services, notamment d'avoir la SAQ qui fournit, bon, évidemment, qui envoie des fonds dans le fonds consolidé, qui envoie de l'argent dans le fonds consolidé, que ça sert à payer un panier de services. On a la SAQ également qui est un grand mécène au Québec, c'est-à-dire qui s'implique dans différents festivals, qui va soutenir des démonstrations de culture un peu partout. Est-ce qu'on n'est pas gagnant là-dessus?
Mais c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, hein, on voit les retombées de la SAQ. On regarde, par exemple, le fait que le gouvernement reçoit des centaines de millions de dollars en profit ou encore, comme vous le disiez, les commandites. En même temps, ça ne veut pas dire que le gouvernement, puisqu'il peut taxer l'alcool, serait nécessairement perdant. Au contraire, on pourrait décider, par exemple, de permettre la concurrence à d'autres de vendre. On pourrait même privatiser la SAQ et toujours taxer le vin et les alcools. Il y en a déjà beaucoup de taxes, notamment les restaurateurs, mais même pour les consommateurs. Ça crée un revenu qui est finalement autonome des profits de la SAQ. Donc, en taxant, il y a possibilité d'arriver à des résultats similaires. Peut-être un peu moins de revenus si on décide de taxer un peu moins, mais si on augmente les taxes, ben à ce moment-là, on peut même faire le même revenu pour l'État, les revenus de taxes cette fois-ci, et puis finalement ne pas y perdre au change, entre guillemets, collectivement. Fait qu'il y a vraiment des choix. Ceci étant dit, là, évidemment, il y a une réflexion là-dedans qui est de est-ce qu'on veut taxer pour réduire la consommation d'alcool? On le fait, par exemple, pour les cigarettes. Hein, on taxe à un haut niveau les cigarettes pour réduire la consommation. C'est un choix qui peut se défendre. En même temps, évidemment, à ce moment-là, ça veut dire qu'on pénalise les consommateurs qui, eux, boivent de façon responsable.
Bon, par ailleurs, il y aura toujours des gens pour défendre l'idée qu'un monopole a au moins l'avantage de un peu comme une coopérative, si vous voulez, d'avoir un pouvoir de négociation extrêmement fort, de telle sorte que on est capable de mettre la main sur des productions de qualité que d'autres ne peuvent pas voir sur le marché. Le fait d'avoir une force d'achat, là, un pouvoir d'achat énorme, parce que j'imagine que chacun des magasins devrait négocier séparément par la suite et qu'on y gagne globalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là?
Bien, toujours pas. Vraiment, on n'a pas de chance. Je pense qu'on ne s'entendra pas. Mais essentiellement, c'est intéressant parce que c'est logique, hein, comme argument. Un pouvoir d'achat énorme va produire des réductions de prix, peut-être une meilleure sélection. Malheureusement, c'est pas ce qu'on observe. Premièrement, la SAQ, on sait, il y a quelques années, s'est fait reprocher d'avoir des contrats avec des fournisseurs qui ne donnait pas aux consommateurs de la SAQ le rendement du fait que le dollar s'était apprécié beaucoup. Hein, on n'avait pas bien converti les devises.
Mais on l'avait pas fait.
Exact. Donc, clairement, on payait, encore une fois, on payait trop cher. On profitait pas, finalement, du pouvoir d'achat de la SAQ, qui est très grand, d'une part. D'autre part, évidemment, on observe qu'il y a moins de sélection au Québec qu'en Alberta, alors qu'on est un plus gros marché. Et puis, finalement, il faut le dire, le pouvoir d'achat de la SAQ, ça peut être une mauvaise chose quand on se ferme des portes pour les petits producteurs aussi. Donc, je pense aux producteurs, par exemple, vinicoles du Québec, qui, eux, ont beaucoup de difficultés à mettre leurs produits en marché sur les rayons de la SAQ, parce que, justement, la SAQ leur dit, ben, il faut que vous fournissiez tant de magasins, puis ils n'ont pas la production annuelle pour pouvoir fournir autant de magasins. Mmh. Donc, clairement, là, on voit que des deux côtés, il y a vraiment des désavantages. On ne profite pas du pouvoir d'achat, puis en plus, on se ferme des portes chez les petits producteurs.
Quand tu te rends à Havre-Saint-Pierre puis que tu t'en vas dans une SAQ, même un exploitant là, d'une licence de la SAQ, ou tu t'en vas n'importe où au Québec, que tu sois au centre-ville de Montréal ou que tu ailles à Val-d'Or, ils ont moins l'avantage d'avoir un monopole, c'est-à-dire que tu as un panier de produits que tu es certain d'avoir partout au même prix.
Oui, en fait, il y a effectivement de ça, hein, dans un monopole qui dessert l'ensemble de la population du Québec. Il y a des magasins un peu partout. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a des magasins qui sont moins rentables, des fois qui sont pas rentables du tout. Puis à ce moment-là, la SAQ prend par exemple la décision de fermer une succursale. Et là, il y a un choix politique. Hein. Il y a le député qui va dire non, la société d'État devrait pas fermer son magasin dans ma circonscription. Alors là, il y a des décisions qui sont plus économiques, qui sont politiques. On peut le défendre, mais à ce moment-là, il faut réaliser qu'il y a des consommateurs de certains endroits qui subventionnent les consommateurs d'autres endroits. C'est un choix un peu particulier, puis surtout qui est pas transparent. On ne voit pas ce transfert-là, cette subvention-là. Elle est cachée, finalement, on la voit pas. Donc encore là, c'est pas transparent, on n'a pas toute l'information. C'est un petit peu difficile de dire oui, c'est une bonne chose.
Je vous écoute parler, puis à bien y penser, de votre point de vue, il faudrait mettre fin au monopole.
Bien, je pense que c'est pas mal clair. Hein. Finalement, je trouve aucun avantage à la situation actuelle. Évidemment, de permettre la concurrence, de permettre à d'autres joueurs de rentrer dans le marché du détail de l'alcool, ça serait un énorme avantage pour les consommateurs. Puis, ça serait aussi... une expérience intéressante parce qu'on verrait qu'est-ce qui se développe comme solution. À l'heure actuelle, on a encore cette espèce de conception que, bon, la SAQ, c'est un monopole, on ne voit que ce qu'on vit, alors qu'ailleurs, ça ne se passe plus comme ça. Si on permettait la concurrence, à tout le moins, on aurait une vision de comment les choses peuvent se faire différemment, finalement. Après ça, peut-être dans un deuxième temps, privatiser la SAQ. Donc, c'est effectivement peut-être une question plus sensible. Je dirais que prenons le temps d'abord de permettre la concurrence et quand il y aura d'autres joueurs, on verra comment on dispose de la SAQ.
Mais juste privatiser la SAQ, il n'y a pas un politicien qui va vouloir embarquer là-dedans. Là. C'est un panier de crabes.
Bien, évidemment, c'est pas facile, surtout au Québec, mais ça s'est fait ailleurs. Donc, évidemment, il y a des politiciens dans d'autres provinces qui ont vu un avantage, notamment parce que même si c'est très difficile à faire, même s'il y a beaucoup de contestations, en bout de ligne, les électeurs, qui sont aussi des clients de la SAQ, vont réaliser que en ayant de la concurrence, en ayant une SAQ privatisée, ils ont davantage de choix, ils ont des meilleurs prix. Ils ont des conseils spécialisés aussi. Ils ont toutes sortes d'options qui ne leur étaient pas offertes avant. Et finalement, ça peut être très bénéfique sur le plan politique. Mais évidemment, ça prend un certain courage pour passer à travers les obstacles initiaux. Puis finalement, convaincre les gens que c'est la bonne chose. Et ensuite, on aura des bénéfices.
OK. Ben en tout cas, on verra ce que ça donnera. De toute façon, je présume qu'on on en parle depuis déjà plusieurs années, mais je présume qu'on attendra de voir si d'abord et avant tout le recours collectif est accepté et voir ce que ça pourrait donner comme résultat ultimement.
Oui, malheureusement, il y a peu de chance. Hein. Il y avait déjà eu un recours collectif de déposer, puis la Cour avait rejeté cet appel-là en disant que les prix de la SAQ relevait un peu de l'arène politique, ce qui est un problème en soi, évidemment. Donc, c'est plutôt sur les politiciens qu'il faut compter. C'est pas évident, mais on les encourage.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au revoir.
Youri Chassin est de l'Institut économique de Montréal. Il est économiste. On essaie de trouver des qualités au monopole de la SAQ. Moi, j'en trouve quand même. Il y a une expertise, il y a des magasins qui sont pas mal beaux. Je sais que j'en ai entendu moi des gens me dire on devrait avoir des magasins qui ressemblent à des racks d'étagères de dépanneurs.
Est-ce que ça nous assure d'une qualité, d'une...
Il y a une expertise là au sein de la SAQ. Mais remarque, puis là, je veux pas être méchant parce que j'ai bien des amis qui travaillent à la SAQ, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posent la question aussi, est-ce qu'on devrait payer ce type de salaire-là, ce type d'avantage-là pour des gens qui travaillent finalement dans un dépôt pour du vin, là? Bon, l'argument qui est souvent donné, c'est de dire, oui, mais là, t'as peu, là, les gens qui travaillent là ont une formation, ils connaissent le vin, ils connaissent le produit.
Ouais, mais en même temps, ils font partie de la fonction publique, là. Ils ont droit aux mêmes conditions que les autres employés de l'État.
Garde, moi, ce que je dis, c'est que la question, elle se pose.
Oui.
OK? Et je pense que c'est pas un droit d'avoir du vin pas cher, soit dit en passant. Maintenant, ça serait mentir de dire que lorsque je vais faire mes petites escapades des fois de temps en temps aux États-Unis, puis tu vas au Vermont, puis tu vas à New York, là, tu regardes le prix des bouteilles de vin, des bouteilles de champagne.
C'est comme quand tu ramènes une bouteille de rhum de Cuba, tu sais.
Bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, évidemment, quand il n'y a pas le fardeau des taxes qui va dessus, ça allège grandement le prix de l'alcool. On est peut-être rendu là aussi, mais c'est pas le problème le plus criant au Québec, je te dirais. Juste vite demain.
Effectivement.